Loïc Tassé, bonjour.
Bonjour Bernard.
Parle-nous de ce mouvement des gilets jaunes en France.
C'est très, très vaste mouvement.
C'est massif.
C'est massif. Ça a commencé samedi. Et c'est pas organisé par des syndicats, par un mouvement politique.
Non, c'est un mouvement spontané.
Ben, spontané, j'irai pas jusque-là, mais disons que ça s'est organisé à travers les réseaux sociaux.
Ben,
et
oui.
Dans ce sens-là, ouais. Si tu veux, dans le sens où c'est pas organisé par une structure politique comme telle.
Ouais.
On peut dire, oui, effectivement, que c'est spontané. Mais il y a eu, malheureusement, il y a eu plein de gens qui ont manifesté ce week-end.
Mais d'abord, dis-nous.
Dis-nous,
ils manifestent contre quoi? Parce que ça nous touche ici, là.
Devine, le prix de l'essence et le prix de l'essence diesel qui a augmenté en France énormément. Le diesel, par exemple, a augmenté sur 12 mois de 23 %. Ils sont rendus à 2 $ le litre. Et la goutte d'essence qui a fait déborder le réservoir, si je puis dire, c'est que le gouvernement Macron a décidé le 1er janvier d'augmenter encore le prix de l'essence, le prix du diesel de 8, l'équivalent de 8 cents canadiens et le prix du litre d'essence d'environ 2,4 $ canadiens.
Ils ont taxé, ils ont décidé de taxer
davantage
les carburants pour lutter contre les gaz à effet de serre.
C'est ce qu'ils disent, pour l'environnement. Sauf que les gens disent, écoutez, là, c'est parce que le prix du pétrole est en chute libre, il baisse depuis plus d'un an, et ça continue de monter à la pompe. Et plus que ça, les gens disent, écoutez, le prix du carburant, c'est une chose, mais nous, en France, on en a assez de perdre notre pouvoir d'achat. Ça fait des années, c'est pas 10 ans, que notre pouvoir d'achat diminue, et on en a ras-le-bol.
Donc, c'est la révolte du contribuable.
C'est la révolte du contribuable qui disent, attention, vous allez faire passer notre pouvoir d'achat avant l'environnement. Les gens sont vraiment choqués. Et samedi, il y a eu dans les rues 290 000 personnes sur 2000 sites différents et c'était pas organisé.
2000 endroits là, différents en France.
Écoute, énorme. Malheureusement, il y a eu un mort et 511 blessés parce qu'il y a des automobilistes qui ont foncé dans les manifestants. Il y a d'ailleurs eu 17 blessés graves. La police a arrêté 315 personnes. Mais en général, ce qui va mal pour le gouvernement français, c'est que les gens sont du côté des manifestants. Et plus que ça, les manifestants sont en train... Ça fait 3 jours que ça dure, il y a encore aujourd'hui des manifestations. Évidemment, tout le monde travaille, donc on a compté 12 000 personnes sur 358 sites. Mais samedi prochain, on se promet de faire une super manifestation à Paris et de tout bloquer. Et les manifestations qu'on fait, ce sont des manifestations de blocage. C'est-à-dire qu'il y a des opérations escargot sur l'autoroute. On ralentit la circulation sur l'autoroute.
Ouais.
On empêche les gens d'accéder à des stations-service pour l'essence. Des hypermarchés aussi, là-bas. Ils ont des hypermarchés, comme tu sais.
Ça c'est dangereux. C'est dangereux pour Macron, hein. Moi, je te le dis, c'est très dangereux pour Macron. Sa cote de popularité, d'ailleurs, est au plus bas.
Elle est à autour de 20%, si je ne m'abuse.
21, oh là là, parce que rappelle-toi, un de ses discours lorsqu'il a remporté la présidentielle, c'était justement le pouvoir d'achat des Français.
Mais alors, ça va mal pour le gouvernement, parce que le gouvernement a dit qu'il ne reculerait pas.
Non, c'est ça. Il
et
a dit.
Il y en a... Les gens tant à gauche qu'à droite ont condamné cette décision-là de Macron. En fait, il y a juste 25% grosso modo des Français qui appuient Macron. Donc, effectivement, ça pourrait marquer le début d'une mobilisation générale contre le gouvernement
ça,
de Macron.
Ça, moi, je veux dire, une mobilisation populaire comme celle-là, c'est beaucoup plus dangereux qu'une mobilisation syndicale. Là. Parce que là, c'est du monsieur et madame tout le monde qui est dans les rues. Là.
Écoute, il semble que la plupart des gens, selon un récent sondage, comme je disais, les 2/3 de la population sont avec les gens qui manifestent. Ils sont d'accord pour que le pouvoir d'achat soit plus élevé avant de prendre soin de l'environnement.
Et syncope. C'est là que tu vois hein, toute la difficulté de lutter contre les changements climatiques. C'est qu'à un moment donné, les gens disent « moi, je suis plus capable de faire mes paiements ». Fait que l'environnement va passer en deuxième. C'est ça que les gens
se disent. C'est bête comme ça, t'as raison, c'est concret comme ça.
Voilà, absolument. Parlant de manifestations, parlons un petit peu de d'autres manifestations dans un autre pays, Haïti.
Oui.
Et les autres, quand ils manifestent, ils manifestent.
Ça fait plusieurs fois qu'on parle de ce qui se passe en Haïti parce que les gens sont extrêmement mécontents de ce qui est arrivé avec le scandale Petrocaribe. On se souvient que c'est de l'argent qui avait été prêté par le Venezuela. On parle d'environ de 3,8 milliards de dollars prêtés sur 20 ans qui ont disparu. Qui sont entrés dans les poches
des dirigeants,
des élites. Et il y a eu des enquêtes.
3,8 milliards de dollars, c'est de l'argent, mon ami.
Dans un pays qui est un des pays les plus pauvres au monde. Et il n'y a personne qui est arrêté. Il n'y a personne qui va en prison. Les gens sont furieux. Cette fois-ci, ce sont les jeunes qui sont descendus manifester dans les villes. Sauf que ça a fait 6 morts et 5 blessés à Port-au-Prince. Ils ont bloqué des rues, ils ont brûlé des pneus. Il y a 3000 policiers qui sont déployés dans plusieurs villes en Haïti. On demande le départ du président Jovenel Moïse. Mais plus que ça, comme je t'en ai déjà parlé, ce scandale Petrocaribe fait finalement comprendre à la population haïtienne que c'est l'incompétence, la corruption, la goinfrerie de leurs élites politiques et économiques qui sont à l'origine de la plupart des problèmes d'Haïti. Et les gens en ont marre, là aussi, en Haïti.
Ras le pompon. En terminant, le roi d'Arabie Saoudite, qui lui aussi aux prises avec une crise, et il essaie de limiter les dégâts, le pauvre.
Oui, il n'est pas pauvre. C'est pas un terme que j'emploierais.
C'était juste une expression.
Il y a 82 ans, il se porte bien. Il est en
semi-retraite.
Ok,
c'est pas Ben Salman.
Non, c'est le père de Ben Salman.
C'est
le père
qui
est sorti.
Le vrai boss.
Parce que Ben Salman,
on dit dans les faits, c'est lui le boss. Mais...
C'est lui qui va lui succéder. C'est l'héritier pressenti.
Mais le vrai roi qui est toujours en fonction et qui est toujours vivant. Oui. Quoique parfois, on se demande. 82 ans,
oui. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'il a dit d'abord qu'il soutenait les efforts de paix au Yémen. On sait que c'est le prince MBS qui est sorti justement pour la guerre au Yémen, pour renforcer son pouvoir. Là, il dit, écoutez, je suis en faveur des efforts de paix. Peut-être qu'il fallait faire la guerre, mais c'est une critique indirecte contre son fils quand il fait ça. Et donc, il le lâche là-dessus.
Il est en train de dire, calme tes ardeurs, mon fils.
Exactement. Et il a dit, bon, que l'Arabie saoudite, comme je te dis, n'avait pas le choix de mener cette guerre pour, entre guillemets, défendre les Yéménites. Mais on se souvient que c'est une guerre, en fait, de soutien à un régime de collabo au Yémen, de collabo pour l'Arabie saoudite. Il y a aussi derrière ça une guerre d'influence entre l'Iran et l'Arabie saoudite.
Oui, j'allais dire.
Mais dans tout ça, il est mal pris et il essaie d'excuser tout le monde. Enfin, je pourrais te parler de Trump encore, qui a eu une bien curieuse excuse. Il a dit qu'il fallait excuser l'Arabie saoudite parce que d'autres pays, dont la Chine, faisaient bien pire que l'Arabie saoudite avec Khashoggi.
Oh, boy, quand t'es rendu à utiliser cet argument-là. Bref, ça continue.
Voilà, on s'en reparlera.
En Arabie saoudite, on s'en reparle, oui, parce que Paul Oud s'amène tout de suite après la pause.